Deutsche Welle, Magazine Environnement.
Nous parlons cette semaine des énergies renouvelables et de la vie sauvage.
Des fois, on pense des grands mammifères comme des éléphants et des lions, mais c'est les choses qu'on trouve autour de nous qui sont aussi importantes, qui sont menacées d'ailleurs.
Le 3 mars est célébrée la Journée mondiale de la vie sauvage. Cette année, les Nations unies ont appelé à l'implication des populations autochtones, surtout des jeunes, dans sa préservation. Mesdames et messieurs, bonjour, Kosivitiasu au micro. Le réchauffement climatique, la pollution ou encore le trafic des espèces protégées sont autant de menaces qui pèsent sur la vie sauvage. Pour les Nations Unies, la célébration de la Journée mondiale de la vie sauvage rappelle l'urgente nécessité d'intensifier la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et ses répercussions sur l'économie ou encore l'environnement. David Morgan est chef des organes directeurs de la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
Bah, la vie sauvage, c'est les animaux et les plantes qui habitent dans la nature. Des fois, on pense des grands mammifères comme des éléphants et des lions, mais c'est les choses qu'on trouve autour de nous qui sont aussi importantes, qui sont menacées d'ailleurs. J'utilise souvent un exemple. Quand j'étais jeune, quand on part en voyage, on revient avec les phares et la voiture pleine d'insectes écrasés sur la voiture. Mais quand on fait le même voyage maintenant, on marque beaucoup moins d'insectes. Et en conséquence de ça, nos hirondelles qui habitent chez nous a subi un vite déclin de population dans les dernières 40 ans, justement à cause d'un manque de nourriture, un manque d'insectes. Donc c'est les trucs qu'on trouve autour de nous qui sont importants. C'est pas juste les grands mammifères et les espèces phares. Nous dépendons sur les animaux et les plantes sur Terre. La planète est un écosystème très délicat. Et puis, si on détruit une partie de cet écosystème, on menace nous-mêmes par nos activités. En plus de ça, on a besoin des animaux et des plantes sauvages pour plusieurs objectifs. On peut tirer les médicaments, par exemple. On utilise pour les vêtements, pour les matériels de construction. Il y a toutes sortes d'utilisations de la faune sauvage, de la flore sauvage, et que même dans notre propre intérêt, on devrait le protéger.
Écoutons la voix des jeunes, c'est le thème retenu par les Nations Unies cette année pour marquer cette journée. Pour David Morgan, chef des organes directeurs de la CITES, c'est l'occasion d'inciter les jeunes à aborder les questions de conservation.
C'est tout à fait normal parce qu'après tout, on parle de l'avenir de notre planète et la jeunesse est le plus engagée là-dedans. C'est les jeunes qui vont être les héritiers de la planète et c'est eux qui vont avoir d'utiliser les ressources de la planète pour leur vie quand ils sont plus âgés. Nous sommes tous concernés, mais c'est surtout les jeunes qui vont ramasser les conséquences de nos activités aujourd'hui. Nous, les êtres humains, on est de plus en plus nombreux, on prend de plus en plus de place, on a besoin de la place pour l'agriculture, pour nos villes, et on détruit les habitats des animaux et des plantes sauvages quand on a fait nos activités. Donc ça, c'est le problème numéro un. Le problème numéro deux, c'est l'utilisation des espèces. Et puis là, ça peut être pour la chasse. Des fois, c'est pour les fins qu'on a pour certains produits d'animaux sauvages et de plantes sauvages. Mais l'utilisation, c'est le deuxième grand thème qui menace les espèces. Mais en premier lieu, c'est le manque d'habitat et c'est détruit de l'habitat qu'on fait.
La CITES ou la Convention de Washington est un accord international entre États. Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. Et pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, les défis urgents auxquels le monde est confronté dans sa quête visant à maintenir la biodiversité à travers le monde impliquent l'autonomisation des populations autochtones. Sheila Verte Kanushnikov est de la division des forêts de la FAO.
La conservation de la faune sauvage doit être un sujet de préoccupation. Et ceci car les communautés autochtones ont une compréhension approfondie de l'écologie de la faune, des pratiques de gestion efficaces pour assurer la survie des générations futures, à la fois des humains et des animaux. Et leur expérience est une source précieuse de connaissances pour développer des programmes de conservation et de gestion durable. Et en outre, la FAO est membre du partenariat collaboratif pour la gestion durable de la faune sauvage, le CPW, qui reconnaît le rôle clé des communautés autochtones à cet égard. Le CPW que je viens de mentionner travaille en étroite collaboration avec le Forum international indigène sur la biodiversité et cette collaboration permet de s'assurer que les connaissances et les expériences acquises par les individus et les communautés autochtones au niveau local sont partagées et entendues à l'échelle internationale. Donc, pour atteindre les résultats positifs, il faudra veiller à une participation effective des populations locales et autochtones dans la prise de décision autour de la gestion de la faune sauvage, mais aussi un partage des bénéfices appropriés, c'est-à-dire que, par exemple, les revenus reviennent effectivement envers les communautés, car seulement avec cela, on peut assurer qu'au final, sera aussi un effet positif sur la sécurité alimentaire.
Sheila Verte Kanouchnikov de la division des forêts de la FAO. Des précédentes études ont montré qu'avec leur savoir-faire traditionnel, les populations autochtones arrivent à mieux conserver la biodiversité.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Comment arriver à profiter de la potentialité africaine en matière d'énergie renouvelable? Le deuxième conseil d'administration de l'Initiative africaine pour les énergies renouvelables s'est tenu à Conakry à ce sujet, essentiellement consacré à la levée des fonds nécessaires aux projets énergétiques en Afrique. Il a été présidé par le président guinéen Alpha Condé. Mais comment les sources d'énergie renouvelables ou propres sont perçues sur le continent africain? Je vous propose d'écouter Cheikh Latir Nias. Il est l'un des responsables de Solar Energy Sénégal qui fait la promotion de l'énergie solaire au Sénégal.
L'Afrique est confrontée à un gap énergétique. C'est toute l'Afrique noire en général, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et ce gap est dû à une insuffisance notoire de l'énergie, donc en général. Et nous souhaitons que les États, donc africains, aillent vers les énergies renouvelables, qui sont des énergies propres et durables. Donc, et qui sont accessibles surtout aux populations qui sont excentrées, qui ne sont pas connectées au réseau des compagnies électriques en général.
Mmh. Mais beaucoup pensent que ces sources d'énergie dites renouvelables ou bien durables aujourd'hui sont très coûteuses pour les populations.
C'est vrai que les équipements coûtent très cher à l'achat au départ, mais c'est là où on demande que les États subventionnent donc les entreprises privées nationales pour qu'ils puissent équiper le monde rural ou les populations dans les zones urbaines. Périurbaine ou même rurale. Donc, effectivement, le coût est très, très élevé à l'achat au départ. Mais bon, avec le renchérissement du dollar, en ce moment, avec les douanes, parce que les technologies sont importées. Hein. Nous ne les fabriquons pas en Afrique, donc on les importe, ce qui rend les coûts assez élevés en général.
Donc, ce qui veut dire que si le coût du matériel ne baisse pas, les populations n'arriveront pas à acquérir l'arsenal solaire pour avoir une source d'énergie propre.
Oui, nous demandons souvent aux paysans qui travaillent dans le monde, dans les zones rurales, d'aller vers les énergies renouvelables et propres. Pourquoi? Parce qu'elle est moins polluante, vous venez de le dire. Le coût, c'est vrai, est un peu cher. Donc, il y a une subvention de l'État que nous préconisons, que nous demandons. Nous demandons aussi à l'État de faire baisser les coûts par les frais de douane quand on importe du matériel, que l'État, au moins, nous enlève tout ce qui est taxes et frais de douane pour alléger un peu les coûts aux populations rurales. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que dans les zones rurales, les gens, par exemple, utilisent souvent des systèmes de pompage solaire avec du gasoil ou tout ce qui est matériel post-récolte avec du gasoil. Souvent, ils n'ont pas les moyens d'acheter du gasoil tout le temps. Ils sont confrontés à des pièces de rechange. Alors que le soleil est là. Le soleil, on peut tirer de l'énergie à partir du soleil, photovoltaïque. on peut tirer de l'énergie à partir du thermique, donc de l'eau chaude ou de la vapeur. Donc il y a toutes ces possibilités-là que nous offrent les énergies renouvelables. Et nous conseillons aux États d'aller vers ce type d'énergie.
Vous conseillez aux États d'aller vers les énergies renouvelables, oui. Mais il y a un problème aussi qui se pose aujourd'hui, les panneaux solaires. Que faites-vous de ce matériel après leur usage ou bien après leur utilisation? Est-ce que vous les recyclez ou bien ça devient aussi des déchets qui encombrent?
Oui, c'est vrai que la durée d'un panneau est de 25 ans, hein, si on tient compte, 20 ans ou 25 ans, si je ne me trompe pas. C'est vrai qu'après l'usage, les panneaux, il faut les recycler. Et nous n'avons pas d'industrie de recyclage en Afrique pour le moment. Nous y travaillons, on y réfléchit. Je crois qu'il y en a en Inde ou dans les pays occidentaux. Mais en Afrique, nous n'avons pas pour le moment d'usine de recyclage. Ça pose un problème.
Mmh. Vous y pensez, mais pour l'instant, le problème ne se pose pas en termes de pollution due aux panneaux solaires.
Non, puisque nous avons ressenti un rafraîchissement de l'énergie renouvelable il y a 2 ou 3 ans. Hein. C'est tout nouveau, hein, ce secteur. En Afrique. Donc, d'ici 25 ans, le problème se posera, c'est sûr. Mais bon, il faut y réfléchir maintenant et trouver des solutions adéquates.
C'était Cheikh Latirnias, l'un des responsables de Solar Energy Sénégal à Dakar. L'initiative africaine pour les énergies renouvelables qui s'est réunie à Conakry vise à permettre l'installation d'une capacité énergétique renouvelable à grande échelle sur le continent africain d'ici 2020, avec un impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le continent. Merci de nous avoir suivis, Kossivitiasso au micro, et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.